des vôtres, des autres. Ouais, demain, petit stop, 7h55, 14h avec ces deux demoiselles-là.
C'est ceux-là, là. Salut, là.
Boulevard 102.1 poursuit son ascension.
Ils jamais cru en nous, man.
Vous?
Boulevard, on rejoignait dans le fond 54 000 personnes. En moyenne, on est passé à 66 et maintenant à 72 344. C'est une station en très, très forte croissance. Sensiblement, toutes les shows sont en augmentation.
La programmation 100% parlée a fait son chemin.
Et un autre fait hyper marquant, c'est le premier podium de Ravel dans le retour, son troisième.
Pour comprendre Québec et ses enjeux, c'est Boulevard 102.1, la radio locale. Let's go! Qui vous donne une voix. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
Bon mardi tout le monde, bienvenue dans les podcasts de Marceau le soir. Ce soir, c'est un invité que j'apprécie vraiment, c'est Luc Laliberté. C'est un spécialiste de la politique américaine qui est avec nous. Merci Luc d'être avec nous pour 60 minutes, c'est très gentil de ta part.
Ah, écoute, sincèrement, ce n'est pas de la basse flatterie ou de la flagornerie, dirait-on dans la langue de Molière. Mais non, ça me fait toujours plaisir de te retrouver, d'avoir un peu de temps et d'échanger de manière conviviale, donc c'est... C'est véritablement un plaisir que d'accepter de m'entretenir avec toi.
Luc Laliberté, depuis que tu t'intéresses à l'histoire, j'imagine que tu as lu beaucoup sur les présidents des États-Unis. Est-ce qu'un président a fait autant jaser que Donald Trump? Et bon Dieu que je voudrais pas être le prochain président des États-Unis parce qu'il va être perçu comme étant beige sur un méchant temps.
On a eu, écoute, on parle quand même cette année en plus, là, de 250 ans d'histoire.
Ouais.
On a eu des présidents qui étaient hauts en couleur et Donald Trump n'est pas le premier à vouloir faire de la présidence un pouvoir plus fort que ce qui a été prévu finalement, de faire de l'institution un pouvoir plus fort. Et c'est un cours d'histoire qu'on pourrait se donner là-dessus, mais des gens comme Theodore Roosevelt, par exemple, ont fait énormément pour concentrer du pouvoir. Son cousin éloigné pendant la crise, la Deuxième Guerre mondiale, Franklin Delano Roosevelt, on l'oublie souvent, mais c'est un bras de fer qu'il va livrer à la Cour suprême à l'époque parce que ce qu'il veut faire pendant la crise, qu'on va appeler le New Deal, il y en avait deux, ça a dérangé énormément puis ça sortait du cadre constitutionnel. Donc, des présidents qui ont fait jaser, qui ont brassé la cage, qui ont secoué le système, il y en a eu. Mais quelqu'un qui fait ce que Donald Trump fait présentement, aussi ouvertement, il ne s'en cache pas, je ne me souviens pas qu'il y ait d'équivalent dans l'histoire américaine. Donc, je répète, il n'est pas le premier, mais que ce soit pour ses transactions financières, que ce soit pour la façon dont il défie les lois, dont il s'approprie parfois quelque chose comme le département de la justice, c'est quand même pas rien. Tout ça mis ensemble, ça n'a pas d'équivalent. On peut trouver les origines de ça ou des exemples de certains éléments, mais pas l'ensemble de l'œuvre.
J'ai appris hier, je pense que c'est par l'entremise de Québécois, là, j'ai appris hier que Donald Trump n'est pas le premier président à avoir pensé annexer le Canada ou encore le Québec. Non. Il y en a un qui y avait pensé avant.
Oui, mais écoute, c'est une des plus vieilles menaces et un des plus vieux projets auxquels on est confronté depuis même l'époque de la colonisation. Quand les Français et les Anglais débarquent, ça commence là. Ouais. Donc, on va être en rivalité. Puis c'est toujours pour les mêmes questions. Quand on regarde ça, là, il y aurait plein d'éléments de contexte. Mais quand on parle de richesse, puis quand on parle de relations nord-sud, là, aujourd'hui, souvent, quand quelqu'un comme Mark Carney dit « on va développer au Canada le marché qu'on a entre nous, entre les provinces », c'est toujours, puis c'est la naissance du Canada, comment on fait ça d'est en ouest, alors que le réflexe naturel, c'est d'aller du nord au sud. Donc, il y a eu des tentatives pendant l'époque coloniale et il y a eu différents moments dans l'histoire américaine où on a craint pour une invasion, pour le fait qu'on devienne une propriété ou un territoire américain et éventuellement un État américain. Le Canada naît, Yannick, et peut-être que nos auditeurs, auditrices s'en souviennent aussi, on est en 1867. Mais un des éléments derrière la naissance du Canada, c'est la peur d'une annexion aux États-Unis. Donc, écoute, on est souvent à Québec tous les deux, on pourrait traverser à Lévis puis aller au fort qui est de l'autre côté, et ça a été construit pour nous protéger d'une invasion américaine. Puis on est au 19e siècle.
Ouais.
Donc, ça va se reproduire par la suite. Mais on va préférer finalement développer le genre de partenariat qu'on a développé depuis la Première Guerre mondiale. Là où Donald Trump est une exception, c'est qu'à ma connaissance, c'est le premier qui, sérieusement, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, va aussi loin dans ses attaques ou ses propos à l'endroit du Canada. La relation n'a pas toujours été hyper harmonieuse. Il y a déjà eu des insultes. Les gens se rappellent de Nixon et de Pierre-Éliott Trudeau, par exemple. Donc, ça ne se fait pas sans accroc, même plus près de nous. Jean Chrétien, c'est pas toujours une relation affectueuse qu'on a eue avec les Américains, bien au contraire. Mais encore là, qu'on aille aussi loin dans la rhétorique, dans les attaques, dans les menaces, il n'y a pas d'équivalent à ça dans l'histoire récente. Mais l'idée qu'on puisse être un territoire américain, une possession ou un État américain, c'est aussi vieux que la colonisation en Amérique.
Puis est-ce que c'est pour des raisons de sécurité que c'était avancé ou c'est uniquement en fonction de, bon, ben nous, on veut avoir accès à ces ressources-là, on aimerait que ces ressources-là nous appartiennent?
C'est beaucoup des ressources puis des éléments stratégiques. Quand les États-Unis négocient avec le Canada, par exemple, ne serait-ce que pour les Grands Lacs, tiens, prenons cet exemple-là, parce que Donald Trump s'est intéressé un peu à la question environnementale puis à la protection des Grands Lacs.
Ouais.
Bien, qui dit Grand Lac dit forcément le Canada, c'est la voie maritime du Saint-Laurent, c'est l'accès au territoire. Donc, on peut penser défense, mais stratégie, la stratégie, bien, c'est autant au plan militaire qu'au plan économique. Puis bien sûr, pour les richesses, le Canada est loin d'être dépourvu et démuni. On ne s'est pas développé au même rythme que les États-Unis, mais on représente quand même un intérêt pour des Américains. Ce qu'on négocie avec un joueur qui est plus gros, mais Donald Trump remet ça en question en disant que c'est au désavantage des Américains dans sa rhétorique. Ça n'a jamais été au désavantage des Américains. Quand on fonctionne par compromis, par négociation, n'oublions jamais que le gars s'appelle Biden, Obama, Clinton, Bush ou Trump. Les États-Unis ne font pas de cadeaux et les États-Unis demeurent d'abord et avant tout des gens qui protègent leurs intérêts. Et c'est là où je dis, ce qu'utilise Donald Trump comme rhétorique, on ne l'avait jamais vu. Mais personne n'est dupe. Quand tu t'assois autour de la table et que tu jases avec les États-Unis, celui qui a les plus gros bras dans l'exercice, le plus fort dans le match, c'est clairement l'Américain.
Puis, tu sais, ces gens-là qu'on considère comme étant des gens qui font partie de l'histoire, des gens qui sont presque inaccessibles, il y en a beaucoup des présidents américains puis qui sont passés au Québec, là, qui étaient entre autres dans la réserve faunique des Laurentides. Le président américain Franklin D. Roosevelt et le premier ministre britannique de l'époque, Winston Churchill, qui ont visité la réserve des Laurentides en août 1943. Donc, plein temps de guerre, là, 39-45, ces deux-là se sont rencontrés. Ils ont fait un genre de lac à l'épaule là, dans la réserve faunique des Laurentides. Fait que ces gens-là étaient au fait là, de ce qu'était le Québec là, depuis longtemps. Là.
Tout à fait. Les gens de Charlevoix sont familiers avec William Taft, qui avait sa résidence dans Charlevoix, qui y passait ses étés, qu'on trouvait, règle générale, je ne pense pas dénaturer la position des gens de Charlevoix, là, mais qu'on trouvait habituellement sympathique, là, d'un commerce plutôt agréable. C'est connu ce qu'a à offrir le territoire du Québec, c'est le plus près de nous, mais le territoire canadien depuis très, très longtemps. Et ils sont nombreux à avoir franchi la frontière, mais certains, tu fais bien de le souligner, ont une expérience terrain beaucoup plus poussée, étendue, qu'on est porté à le penser. Puis tu vois, moi, c'est même une chose qui m'étonne. J'ouvre une petite parenthèse, mais les Américains ont actuellement un ambassadeur, Peter Hoekstra, qui fait souvent jaser pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que quand on regarde la couverture médiatique à laquelle il a droit au Québec et au Canada, on n'aime pas. Il braque plutôt que de charmer. Je résume ça dans mes termes, mais c'est souvent ça, les enjeux diplomatiques. C'est comment tu parviens à formuler ça de la manière la plus polie possible. C'est pas le cas. Il braque et il défie. Mais moi, une des choses qui m'étonne de Pete Hoekstra, puis j'ai eu l'occasion de faire des entrevues en tête-à-tête avec deux autres ambassadeurs déjà, c'est à quel point lui ne connaît pas ni le Québec ni le Canada au plan culturel, au plan historique et au plan culturel. Et ça, de la part d'un diplomate, on s'attend à ça. Si on envoie, nous, des représentants aux États-Unis ou qu'on les envoie en France ou qu'on les envoie... Choisis la destination que tu veux. La première chose qu'on fait, c'est de s'assurer qu'on mette à jour nos connaissances de la culture puis de l'histoire du pays, puis des principaux enjeux. Et on n'a pas cette impression-là. Et ça tranche, encore une fois, avec ce que d'autres administrations faisaient. Donc, le prédécesseur de Hoekstra, qui était David Cohen, avait une connaissance fine même du fonctionnement du tournoi Pee-Wee à Québec. Ça donne une idée, là. Le gars représente les États-Unis dans l'ensemble du Canada, puis il prend la peine de s'intéresser puis d'aller voir des matchs, donc du tournoi. Il y a vraiment un clivage entre les deux approches.
Projetons-nous dans l'avenir. Est-ce que tu as l'impression que dans 1000 ans, bon, souhaitons qu'on ne soit plus là, j'ai mal. À chaque fois que je me lève le matin, j'ai mal au dos. Fait, j'ose pas imaginer ce que ce soit dans 1000 ans. Mais est-ce que les États-Unis, l'Amérique sera les États-Unis? Est-ce que l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud fera partie des États-Unis? Est-ce que la Chine va pouvoir grandir puis peut-être réussir à conquérir l'Afrique? Parce qu'elle elle a déjà commencé à prendre l'Afrique. Est-ce que les Russes vont continuer à faire croître leur territoire? Tu as l'impression que ça va être ces trois pays-là qui vont diriger le monde, en fait, avec des territoires qui sont plus élargis, si on se projette?
On se projetait très, très, très loin dans ta question, mais permets-moi juste de revenir un peu plus près de nous. Mettons qu'on s'imagine dans 50 ans oui. ou dans 100 ans. Donc, déjà dans 50 ans, tu disais « t'as mal dans le dos, imagine, je suis plus vieux que toi, donc je ne serai pas là ». Donc, gardons l'entrevue puis ressortons là quand on arrivera là. Mais ce à quoi on assiste actuellement, c'est un enjeu qui est crucial. C'est que des puissances qui ne sont pas des puissances démocratiques sont en train de s'imposer à l'échelle de la planète et même dans les pays démocratiques. C'est surtout l'Europe de l'Ouest dont on parle, mais ce n'est pas que ça. Il y a une crise des pays qui vivent en démocratie. On la remet en question même de l'intérieur, la démocratie. Donc, est-ce que, dans ce qui se passe actuellement, on va aller vers un monde dans lequel, parce que la démocratie a déjà existé il y a très longtemps en Grèce, même à un moment donné, elle est disparue. Donc, est-ce qu'on assiste à la fin ou au déclin des démocraties qui sont en place depuis le 18e, 19e siècle? Ça, c'est déjà une grande question. Est-ce que l'avenir est au pays autoritaire ou au régime autoritaire? Et c'est une question, je pense, à laquelle il faudrait prendre le temps de réfléchir et certains le font déjà. Dans l'autre, De l'autre volet, quelle est la place des États-Unis dans cet univers-là? Et c'est là où on a finalement ce dont je suis en train de parler à l'échelle de la planète, ça se joue à l'intérieur même des États-Unis. Que vous aimiez Trump ou pas, que vous partagiez ses politiques ou pas, les faits nous disent qu'il y a une dérive autoritaire. Donc, il ne respecte pas un certain nombre de choses et tente de s'attribuer des pouvoirs que le président n'a pas. Et il y a des gens que ça ne dérange pas. Je confesse tout de suite un biais très, très évident. J'aime la démocratie. Elle est pleine d'imperfections. Hein, on dit souvent que c'est le moins pire des régimes. On peut dire ça comme ça. Mais je préfère ça à un régime autoritaire, disons. Donc, il y a actuellement 7 dérives autoritaires. Et 7 dérives autoritaires, elles se passent en même temps qu'un... Est-ce qu'on peut parler de déclin? Moi, j'y vais plus souvent pour repositionnement des États-Unis sur la scène internationale. On s'est habitué depuis la Deuxième Guerre mondiale à ce que les États-Unis soient, pendant un temps avec l'Union soviétique, puis après ça, tout seul, mais les États-Unis, c'était la grande puissance. Et on évoquait parfois un déclin ou des faiblesses, mais au plan économique et militaire, les États-Unis demeuraient premiers. Ce à quoi on assiste dans les dernières années, donc, c'est un repositionnement. Les États-Unis sont incontournables. On ne peut pas se permettre, ne serait-ce qu'en termes de marché, le plus de 300 milliards d'individus, on ne peut pas se permettre d'éviter ou de bouder les États-Unis. Mais en même temps, clairement, les Américains ne sont plus seuls. Tu as évoqué la Chine, puis il y a d'autres pays qui sont en ascension.
La Russie.
Tu vois, par exemple, aujourd'hui, au G7, M. Modi est invité pour l'Inde, par exemple. Donc là aussi, quand on parle de marché, mais tranquillement, quand on parle de puissance économique, se rapprocher de Modi, c'est devenu un passage obligé. Mais donc, il y a un repositionnement des États-Unis. Et je ne pense pas qu'il soit trop tard pour les États-Unis, mais si on ne bouge pas rapidement, je pense que ce que fait l'administration Trump actuellement, c'est d'isoler les États-Unis et on accélère ce repositionnement ou ce déclin. Donc, est-ce que dans 50 ans, les Américains vont encore être une des puissances? C'est même plus la question, est-ce que ça va être une puissance ou la puissance? Est-ce que ça va être une des puissances? Moi, je pense que ça se joue sous nos yeux, là, live, en direct. On pourrait assister à quelque chose qui va faire des États-Unis, ça va toujours demeurer un gros marché, mais on va être loin derrière les menaces.
Okay. Comment un gouvernement devient autoritaire? Est-ce que dans l'histoire, on a étudié ça? Je veux dire, c'est pas une demande du peuple là, d'avoir des gens qui sont autoritaires en haut. Est-ce que c'est l'armée qui est trop à coquiner avec le gouvernement? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de violence dans le pays? Donc là, on durcit les lois, puis à un moment donné, on s'en rend plus compte qu'on a peut-être été trop loin?
Quelle belle question. Puis quelle belle question pour un gars qui a enseigné l'histoire pendant très, très longtemps. Quand on regarde les régimes autoritaires, les endroits où ça s'est passé plus vite, un régime autoritaire, c'était des endroits où la démocratie avait moins des racines profondes. Les gens vont penser, par exemple, à l'Italie. Combien de personnes nous parlent d'Hitler? Il y a un livre derrière moi, justement, une bande dessinée qui parle de ça. Là, mais donc, dans des pays qui n'ont pas d'ancrage démocratique profond, c'est plus facile de revenir à un régime autoritaire. Et l'Allemagne, d'après la Première Guerre mondiale, c'est un peu ça. On se fait imposer la démocratie par la force, mais c'est plus facile quand on voit un régime libéral, capitaliste, connaître des difficultés et qu'on est dans ce système-là, mais ça nous a été imposé parce qu'on a perdu. C'est un petit peu plus facile de bouger pour mettre en place un régime autoritaire. Maintenant, dans un pays comme les États-Unis, c'est long et ça se fait progressivement, une dérive autoritaire. Et je pense très sincèrement que c'est ce à quoi on assiste. Mais comme ça ne se passe pas brutalement, comme ça ne se passe pas, ce n'est pas un soulèvement, ce n'est pas une révolution hein, dans une période de temps très courte, je pense que les gens s'habituent ou banalisent certaines choses qui sont graves. Quand tu t'en prends aux médias, quand tu t'en prends à l'éducation, quand tu t'en prends à la culture, et quand tu t'en prends, bien sûr, à la séparation des pouvoirs, c'est tranquillement ce que tu mines et le résultat, éventuellement, va être en place, la mise en place d'un régime autoritaire. Mais ça se fait progressivement et lentement. Et il y a plein de gens qui considèrent que les chroniqueurs, les penseurs, les universitaires, les chercheurs paniquent un peu quand ils voient aller Donald Trump et disent « Ah, on en rajoute, c'est pas si pire que ça. » Moi, j'ai suffisamment noté de choses, et on en a déjà discuté, je pense. Je ne peux pas te dire Donald Trump est un fasciste ou c'est un régime fasciste. Mais quand je regarde ce que j'enseignais, quand je me fais une grille, hein, une liste de choses à cocher sur ce qu'est un régime autoritaire, il ne m'en manque plus beaucoup pour que la définition fonctionne avec les États-Unis. Et c'est là où j'espère que les gens vont se mobiliser et se réveiller. Il y a un groupe aux États-Unis, puis parfois je les comprends, ils sont en colère. Et ils ont trouvé dans Donald Trump le porteur de leur colère. Oui, la globalisation, ça a fait des victimes. Oui, les autorités ou les politiciens ne nous parlent pas toujours des sujets qui nous préoccupent. Oui, parfois, les politiciens sont corrompus. À Washington, on est effectivement parfois déconnecté de la réalité. Ça, si j'étais un Américain, ça me rejoindrait. Mais est-ce qu'on a trouvé le bon porteur de ballon pour notre colère? Est-ce qu'on veut vraiment d'un régime autoritaire parce que là, le leader autoritaire dit ce qu'on souhaite entendre? Peut-être que le prochain leader autoritaire ne dira pas la même chose, mais vous allez être pris avec un meneur autoritaire. Mais donc, il y a un noyau dur. Et je pense comprendre une colère qui est très souvent justifiée. Ce n'est pas méprisant du tout. Mais je pense qu'on est en train, chez ces gens-là, d'appuyer quelqu'un qui va en sens contraire de la protection des acquis de la démocratie. Et c'est là où j'espère que le reste de la population, et selon les sondages, c'est ce qui se passe. On ne s'attend pas à ce que les démocrates votent Trump demain, ça c'est correct, mais ce n'est pas là que ça va se jouer aux États-Unis. C'est est-ce qu'il y a encore un groupe suffisamment sensible aux enjeux démocratiques chez les indépendants, chez les indécis, ou encore chez des républicains qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans leur parti sous Donald Trump? Est-ce que ces gens-là vont être suffisamment conscientisés pour dire aux élections ben oui, il y a l'économie, oui, il y a les tarifs, oui, il y a la question de l'immigration, mais est-ce que le président n'abuse pas un peu, beaucoup de son pouvoir? Et j'espère que ça va s'inscrire dans leurs préoccupations. Mais donc, tout ça pour dire, pour répondre à ta question, le glissement vers un régime autoritaire dans une démocratie aussi vieille et aussi ancrée que les États-Unis, ça se fait progressivement, lentement. Puis parfois, assez pour pas qu'on se lève ou qu'on se choque à chaque occasion. Et moi, c'est ce que je m'emploie à faire de mon côté, c'est Donald Trump peut avoir de bonnes idées. Et il en a eu. La façon de les mettre en place, parfois, c'est pas ce qu'on devrait faire ou ce qu'on devrait encourager dans une démocratie.
Parce qu'au Québec, on l'a connu à plus petite échelle, puis tu sais, pour un petit laps de temps, quand il est arrivé la pandémie, c'était une bête qu'on connaissait pas. On essayait de bâtir un avion en plein vol, on a fait des erreurs, on s'est rendu compte qu'on mettait des choses en place, puis on n'avait pas le choix de le faire parce qu'on se disait que la somme des décisions qu'on prenait ben, allait faire en sorte qu'on allait se sortir plus rapidement de la pandémie. Mais moi, c'est la première fois que je vivais avec un gouvernement qui me disait à quelle heure que je devais rester à la maison, avec qui je pouvais me promener à l'extérieur. C'est la première fois qu'un gouvernement fermait l'entreprise où je travaillais. On n'avait jamais vécu ça. Mais ça a été drastique. Je comprends maintenant ce que tu me dis, c'est que quand un gouvernement autoritaire s'installe, c'est lentement... On s'en rend pas nécessairement compte, puis à un moment donné, on est pris à la gorge, puis OK, eux autres sont là, sont en place. Je comprends.
Et regarde, sans exploiter le thème de la pandémie, puis les gens sont restés très sensibles à ça. J'ai des amis qui ne se sont pas remis de décisions d'administration Legault et qui sont encore en colère, même si on pense que ce gouvernement-là va être battu aux prochaines élections avec Mme Fréchette. Donc, mais si vous encouragez un régime autoritaire, regardez simplement la réaction que vous avez eue quand le gouvernement a dit « il y a un couvre-feu ». Moi, je m'en souviens parce que je faisais des blagues avec ma blonde. Je m'en allais au chalet, puis le couvre-feu était à 8 heures, puis à 8h05, je n'étais pas arrivé. Donc, c'est certain que la SQ n'allait pas venir sur une route de campagne, m'arrêter, puis me passer mes notes parce que j'avais brisé le couvre-feu. Mais je disais à ma blonde, réalises-tu quand même ce qui se passe? On est dans l'illégalité en se rendant chez nous.
Exact.
Mais multipliez ça dans toutes les facettes de votre vie, c'est ça une dictature. Dans ce cas-ci, puis après ça, bon, on peut critiquer le gouvernement Legault ou pas, mais on a toujours assis nos décisions, pas toujours sur la science, parce que le couvre-feu, ça tenait pas nécessairement à l'avis des scientifiques.
C'est pour ça qu'ils ont dit que c'est la somme des décisions qui étaient prises qui allait faire en sorte qu'on allait s'en sortir
mais
plus rapidement.
On a toujours dit une chose qui est importante en démocratie. Puis M. Legault, je l'ai critiqué, mais en même temps, chapeau, parce que vous avez traversé une crise que personne n'avait traversée avant. Mais on a toujours défendu l'idée qu'on faisait ça pour le bien commun. Et c'est ça, en démocratie, qu'il ne faut jamais oublier. Un régime démocratique, gauche, droite, plus économique, moins économique, plus social, c'est en théorie là pour servir le bien commun. Et je pense que c'est ce que la santé publique a appliqué pendant la COVID, mais tu l'as dit, en construisant l'avion en plein vol.
Donc, il y avait des erreurs qui étaient possibles.
Il y a des erreurs qui ont été faites et, je pense, dans certains cas, reconnues, assumées.
Il y a des dossiers qu'on parle peut-être un peu moins là, en raison du fameux détroit d'Ormuz là, qui nous pourrit la vie, mais imaginez-vous à quel point là-bas, ça doit pourrir leur vie. Le Venezuela, on en parle plus tant. Cuba, on en parle plus tant, alors que j'ai des amis qui habitent à Cuba de façon permanente qui disent que s'il y a une crise humanitaire qui est en train de se dessiner là actuellement. Est-ce qu'à un moment donné, on va passer à l'acte du côté des Américains puis on va mettre nos fameux hôtels dont on rêve depuis des décennies des décennies sur l'île de Cuba?
Je pense que, puis écoute, on est vraiment le nez collé sur la vitrine encore dans les deux cas, là, pour le Venezuela et pour Cuba, mais les Américains ont accompli avec le Venezuela une grande partie de ce qu'ils souhaitaient déjà accomplir si on regarde leur politique de sécurité nationale. On défendait des intérêts stratégiques, entre autres par rapport à la Chine. Il y a des intérêts économiques avec le pétrole. Il y a la lutte à la drogue. On a présenté ça tout de travers ou tout croche sous l'administration Trump. Mais il y a effectivement ce genre de trafic. Donc, si on regarde des intérêts stratégiques et économiques, on a pratiquement réalisé ce qu'on voulait faire avec le Venezuela. Est-ce qu'il faut absolument ensuite qu'on ait un gouvernement associé, attaché aux États-Unis? Est-ce qu'il faudrait être plus présent? Parfois, le calcul n'en vaut pas le coup. On peut se contenter de, entre guillemets, de diriger ou d'influencer à distance. Le cas de Cuba est peut-être plus difficile à gérer parce que le régime semble être plus près de tomber de lui-même. Et une chose que je ne peux pas documenter parce qu'on n'est pas sur l'île, et peut-être que tes amis peuvent venir à notre secours là-dessus, c'est que les informations qui sortent de l'île, ce n'est pas transparent. C'est un média d'État, là, c'est géré par le régime. Mais à quel point la situation pour la population est devenue insoutenable sur l'île pour qu'on puisse éventuellement, avec un petit coup de pouce peut-être, renverser le régime qui est en place. C'est comme ça que le régime cubain, à la fin des années 50, est tombé. Il y a Che Guevara, il y a Fidel Castro et compagnie, il y a ceux qu'on appelait les Barbudos ou les Barbus qui débarquent avec la Révolution. Mais en fait, on a grossi les rangs au fur et à mesure qu'on progressait et le régime est finalement tombé. Est-ce que le fruit est mûr à Cuba présentement? Je ne pense pas qu'on en soit rendu là, mais c'est une partie du jeu auquel se lie, quand je dis du jeu, de la stratégie américaine. On a installé au plan militaire autour de l'île tout ce qu'il fallait pour soutenir un changement de régime. Puis on a même dit, s'il faut procéder à une invasion, on va le faire. En termes de coûts, en termes de choix politiques, en termes de stratégie militaire, est-ce que c'est le moment pour le faire ou si on n'attend pas que ce régime se livre finalement à nous? Donc, on en est là. Mais pendant tout ce temps-là, on peut parler stratégie, on peut parler économie, il y a des êtres humains qui souffrent, il y en a certains qui meurent, il y en a certains qui meurent qui manquent de l'essentiel pendant tout ce temps-là. Et c'est malheureusement ce qui se passe à Cuba.
Mais je vais reprendre les paroles de la personne à qui j'ai parlé à Cuba, avec qui j'étais au secondaire, soit dit en passant. Lui, sa famille est là-bas. Il a vécu une bonne partie de sa vie ici. Puis après ça, il a décidé de retourner à Cuba. Puis je pense qu'on en avait parlé, toi et moi, dans le show du matin, mais il m'avait dit, à partir du moment où un homme n'a plus rien à perdre, il devient extrêmement dangereux. Et là, voilà. À chaque jour, les gens perdent tout ce qui les entoure. Il y a des enfants qui ont de la misère à se nourrir. Il y a des femmes qui ont de la misère à se nourrir. Il y a beaucoup de faiblesses au niveau du peuple. Au niveau mental aussi, ça semble s'en aller parce que là, tu comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je dois vivre ça? Ces gens-là qui n'ont plus rien à perdre deviennent extrêmement dangereux de jour en jour. J'imagine que l'administration à Cuba en place doit être au courant de ça. Si un citoyen cubain me dit ça, j'imagine qu'eux autres en haut doivent commencer à surveiller leurs arrières. Là.
L'autre version que j'ai, puis ça vient confirmer ce que ton ami te disait, c'est la version de la CIA puis de John Ratcliffe. Lorsque le directeur de la CIA a rencontré, il y a 3 semaines, 4 semaines, les dirigeants, il a dit, si vous ne surveillez pas vos arrières et si vous ne déployez pas encore plus de force et d'autorité, vous allez vous retrouver avec votre propre population sur les bras. Donc, lui, ce qu'il disait, c'est que Cuba devient instable. Et ce que raconte ton ami, bien, écoute, c'est l'épreuve des faits puis l'épreuve historique. Quand tu as des gens qui sont en mode survie, quand tu as des gens qui n'ont plus rien à perdre, effectivement, c'est là où ils deviennent les plus dangereux. Et à sa façon, dans un autre contexte, c'est ce que Donald Trump vit avec l'Iran présentement. Ça ne va pas bien en Iran. Les frappes ont fait mal, l'économie est affectée, mais ce régime-là est en mode survie. Et ce régime-là joue, c'est l'expression que je réutilise toujours, on joue le temps puis on joue l'horloge parce qu'on sait que Trump est pressé de sortir de là et que les républicains sont pressés parce qu'il y a des élections qui s'en viennent. Et on ne veut plus avoir à subir les mauvais sondages à répétition et les critiques de la population. Mais t'as un régime, et c'est le lien un peu avec Cuba, t'as un régime qui est en mode survie. Et rendu là, quelles options tu refuses? Ça semble extrême aux autres, mais tu es en mode survie. C'est effectivement ce que ton ami te racontait pour Cuba, me semble être tout à fait légitime. Et c'est ce que semblaient confirmer les autorités américaines aussi.
Parlons-en de l'Iran. Est-ce que ça se peut qu'on ait, malheureusement, puis je dis « on », mais on ne fait pas partie des décisions, là. Est-ce que ça se peut créé un monstre en montrant à l'Iran à quel point ils peuvent avoir un impact sur Terre? Avec le fait de leur positionnement, ils peuvent bloquer un canal qui est hyper important pour le passage du pétrole. Est-ce qu'on a créé un monstre en attaquant l'Iran? Puis eux autres se sont aperçus que finalement, bon, ils étaient une belle grande nation selon eux, mais ils sont encore plus parce qu'ils ont un contrôle quasiment sur le prix de l'essence à la grandeur du monde entier.
Je pense, la façon de répondre à ta question... Je pense que Donald Trump a choisi d'ignorer tous les signaux d'alarme qu'on lui présentait avant l'attaque. On nous répétait encore aujourd'hui, on a des réserves sur le protocole d'entente pour le cessez-le-feu, mais c'est Donald Trump qui va décider, c'est lui le patron, c'est lui le boss autour de la table. Dès les premières frappes, moi je me souviens d'avoir mentionné en entrevue, il n'y a personne dans l'entourage du président qui lui a dit « c'est a walk in the park hein, », ça va être une marche là. Contrairement à ce que Trump avait dit, c'est une petite expédition ou excursion. Là. Ses stratèges militaires, ses généraux, les Joint Chiefs of Staff, ces gens-là avaient dit, c'est une boîte de Pandore finalement, ou c'est un panier de crabes, on choisit l'expression qu'on veut, mais vous ne pouvez pas sortir de là rapidement. Et la première réserve qu'il y avait sur la liste de réserves, c'était le détroit d'Ormuz. Donc, quand on nous a dit après qu'on pouvait plus ou moins savoir qu'on allait bloquer le détroit, les généraux américains avaient dit ça en partant. Leur premier réflexe pour nous faire mal, puis pour faire mal, pour exercer des pressions, ça va être de bloquer le détroit d'Hormuz. Et je pense, parce qu'on ne peut pas l'affirmer hors de tout doute, mais la majorité des informations, l'essentiel des informations dont on dispose présentement, c'est que Netanyahou a réussi à convaincre Trump d'attaquer ce qu'il n'était pas parvenu à faire avec les prédécesseurs de Trump, et pas qu'un seul. On peut remonter plusieurs présidents en arrière. Et je pense que Trump s'est réveillé avec, c'était beau sur papier ou sur la vidéo qu'on m'a présentée, cette attaque-là contre l'Iran, mais dans les faits, ça ne se passe pas comme on veut. Et rappelle-toi, il y a un protocole d'entente qui est déjà très fragile. Aujourd'hui, on commence déjà à avoir des failles, même si on espère globalement, nous tous, que ça va tenir. Mais est-ce que Donald Trump avait bien prévu tout ça, tout ce qui allait arriver? Il est plutôt dans le temps, d'abord, rappelle-toi des arguments pour lesquels on attaquait, puis du fait que Donald Trump avait même dit « Moi, je n'arrête pas ce conflit-là à moins d'une reddition complète de l'Iran. » Pour le peu qui circule du protocole d'entente qu'on a annoncé dans les dernières 48 heures, c'est tout sauf une reddition de l'Iran. L'Iran va sortir avec plus d'éléments qu'on en avait avant le début du conflit. Donc, ça montre à quel point Donald Trump et les Américains ont frappé un mur. On pourrait battre l'Iran. Militairement, il n'y a personne qui compare ça. Mais à quel prix, avec quel risque, avec quelle retombée pour la planète, puis avec quelle retombée en politique intérieure aux États-Unis? Si on met tout ça, là, on en aurait déjà pour 2 heures de podcast de plus à expliquer les problèmes. Et ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est que les Iraniens ont bien compris que là où on est rendu, Trump veut sortir de là. Les Républicains veulent sortir de là. Donc, et la phrase, moi, qui a retenu mon attention, puis je ne me souviens plus dans quel journal, mais c'est un éditorial français, c'est « Est-ce que finalement, on a fait 108 jours de combat? Est-ce qu'on a fait tout ça pour ça? Est-ce que le résultat auquel on peut espérer parvenir maintenant, ça valait les 108 journées précédentes de conflit qui ont commencé avec l'attaque américaine sur l'Iran? » Et c'est une sacrée question à répondre, et je ne sais pas comment les Républicains vont y répondre devant l'électorat si on les interroge, bien sûr, avant les élections, avant le scrutin de novembre.
Si on écoute la version américaine, il y a une entente qui a été... on s'est entendu sur quelques points et ça va être libéré là, dans les prochains jours. Je pense que c'est vendredi qu'on va nous dire c'est quoi l'entente. Si on en croit les Américains, c'est réglé. Si on en croit les Israéliens, par exemple, ça ne l'est pas du tout. Est-ce que Netanyahou est trop stable dans l'aventure?
Tant qu'à avoir des amis comme Netanyahou, j'aimerais mieux ne pas avoir d'amis.
Ah oui?
Netanyahou, c'est pas un allié pour les Américains qui est... Israël est un allié qui, bien sûr, mérite l'attention des Américains. Mais dans le contexte actuel, est-ce que Netanyahou lui-même et le gouvernement qu'il dirige sont de bons alliés pour les États-Unis? Faut pas oublier que Netanyahou, dans son pays, n'a pas de marge de manœuvre. Il n'y a pas d'appétit en Israël présentement au sein de la classe politique, pas de majorité pour dire « on veut des cessez-le-feu, puis vous allez lâcher le Hezbollah puis le Liban, là, on ramène les armes chez nous, on quitte le territoire ». Netanyahou est un peu confronté à ce que Trump affronte chez lui, c'est-à-dire qu'il y a une grogne et les intérêts de Netanyahou en politique intérieure ne concordent pas avec ceux de Trump dans le dossier iranien. Donc, une des failles que j'évoquais tout à l'heure pour l'entente de cessez-le-feu ou le protocole de cessez-le-feu, c'est que pour les Iraniens, et ce serait dans le protocole, c'est clair qu'il faut que le cessez-le-feu soit régional, pas que pour l'Iran. Il faut que ça inclue aussi le cessez-le-feu avec le Liban. Et Netanyahou tirait presque au moment où on annonçait le protocole d'entente et il ne semble pas déterminé à faire le jeu des Américains. Assez que Donald Trump y est allé d'une expression à la Trump. En anglais, il a dit que Netanyahou avait « no fucking judgment ». Donc, on ne pouvait pas se fier à son jugement. C'est une version plus chaste ou polie en français. Mais donc, il ne se fiait pas du tout au jugement ou à l'attitude de Netanyahou. Donc, un des boulets que traîne Trump présentement, c'est que si on veut passer d'un accord, d'un protocole d'entente à une paix, parce que c'est ça, la prolongation de 60 jours du cessez-le-feu pour se négocier une paix, je vois mal comment on peut, pour les 60-70 prochains jours, parvenir à calmer Netanyahou et à imposer un cessez-le-feu avec le Liban. Et ou avec le Hezbollah, mais qui est au Liban.
Et ce qu'on comprend, c'est qu'on a deux forces de la nature en Donald Trump et Netanyahou. Trump est rendu à 80, Netanyahou est rendu à 76. Il a mentionné qu'il voulait se représenter pour diriger Israël. Lui, il va avoir un beau bilan. Là. Donc, nécessairement, ce que les Américains vont lui dire, si ça ne fait pas son affaire, il va continuer.
Et Netanyahou, on sait à quel point il est prêt à tout. Et c'est une bête politique redoutable. Bête dans le sens, là, c'est... S'il y a quelqu'un qui comprend les rouages du système, qui est prêt à tisser des alliances, à exploiter les failles ou les volontés, parce que s'imposer en Israël, c'est difficile d'aller chercher une majorité, puis d'aller chercher une majorité qui va dans la même direction. Et Netanyahou, c'est un survivant puis une bête politique assez extraordinaire. Je ne dis pas ça pour dire que je suis admiratif de Netanyahou. Il y a plein de choses condamnables. Mais si on ne regarde que le strict jeu politique, la stratégie, faut se lever de bonne heure pour déjouer Netanyahou.
Puis il semble avoir, dans ces secteurs-là, il semble avoir une vision autre des guerres. En sachant très bien qu'il va y avoir des pertes de vie humaine, ils vont y aller quand même en se disant bien, ce qu'on fait là va profiter à notre prochaine génération ou dans deux, trois générations. Tandis que pour nous autres, on dirait qu'on est comme on gère à la petite semaine. Là.
Bien, c'est-à-dire que ça, c'est intéressant que tu le dises parce que autant comme citoyen que quand on commente ou on analyse dans les médias, une perception qui est nord-américaine. Heureusement, sur notre territoire, la guerre, on connaît peu ça. Ce n'est pas une réalité en termes d'approvisionnement, de morts, de blessés, de gestion des hôpitaux, de dépenses budgétaires. On est à une autre échelle et quand on observe la guerre, la mort, puis la violence, on commande quelque chose qui se passe et qui a l'air très, très, très loin. Le théâtre des opérations, c'est rarement la cour chez nous. En fait, c'est jamais la cour chez nous. Et c'est à la fois une force et une faiblesse pour nos dirigeants ou pour les commentateurs. C'est la raison pour laquelle j'aime bien quand on envoie, mais ça coûte une fortune, quand on dit on paie des journalistes ou des recherchistes pour aller travailler à l'étranger et nous amener des images qui correspondent à la réalité, ça nous aide parfois à comprendre des décisions qu'on ne prendrait pas forcément à partir d'ici. Mais pour un Israélien, puis on pourrait faire le volet palestinien aussi, mais pour un Palestinien, la mort, les attaques, les menaces, le terrorisme, c'est malheureusement, je ne pense pas exagérer, souvent du quotidien. C'est une réalité à laquelle on s'est habitué. Alors que chez nous, on a cette distance, puis d'une certaine façon, même dans l'analyse, ce confort-là de se prononcer avec une distance qui est énorme.
Puis, tu sais, au Québec, la religion est partie, tandis que là-bas, elle est omniprésente, la religion. Hein? L'histoire aussi, tu sais, tous les territoires sont importants à certains endroits, puis ils veulent se disputer ces territoires-là. C'est quelque chose que nous, ici, on connaît pas nécessairement. Parlons de Donald Trump maintenant. Oui. Les élections de mi-mandat s'en viennent. Comment ça se passe, le topo? Est-ce que du côté républicain, on est tous derrière Donald Trump ou il commence à avoir la base de Donald Trump commence à dire « Ouais, ben là, le monsieur, on était derrière lui durant son premier mandat, ça a bien été, le deuxième est un petit peu plus difficile. » Est-ce qu'il va avoir des difficultés, Donald Trump, avec les républicains même?
Je rigolais un peu quand tu as posé la question parce que pour un nerd de politique comme moi ou pour quelqu'un qui se gave littéralement de politique au quotidien, ça va être drôlement intéressant à suivre ce qui se passe actuellement. On sentait un vent de panique chez les républicains de la Chambre. Plus le conflit avec l'Iran se prolonge, plus il y a des doutes sur le protocole d'entente, plus pour les républicains, ou encore, tiens, l'inflation. C'est un sujet qui est aussi partiellement lié au conflit en Iran. Il y a des républicains qui disent « on est aussi bien de baisser les bras ». On ne veut pas se dissocier de Trump, ça coûte trop cher, littéralement cher pour notre campagne électorale, là. Flusher ou tasser Trump, ça va nous priver de fonds et de son appui pour l'élection. Puis on a un problème, c'est qu'on risque de perdre notre base politique si on se dissocie de Donald Trump. Mais si on reste collé à Trump, on peut perdre aussi parce que là, c'est la population en général qui vote. Ce sont tous les électeurs. Mais il y avait un vent de panique à tout le moins à la Chambre parce que les chiffres sont continuellement mauvais. Tout indique que la Chambre passerait entre les mains des démocrates. Là où ça devient un peu plus intéressant, risqué aussi pour les républicains, c'est que pour la première fois dans les deux dernières semaines, on a des sondages répétitifs ou des analyses qui, de plus en plus, donc sont nombreuses, qui disent les démocrates, il leur faut 5 sièges pour vraiment gagner la majorité au Sénat. Donc, 3, 4 pour essayer de parvenir à l'égalité. puis un de plus, parce qu'en cas d'égalité au Sénat, c'est le vice-président qui vote pour trancher les égalités. Ce serait J.D. Vance. Donc, on dit, on a 5 sièges qu'on peut gagner, il faut en gagner 4 sur 5, puis avec ça, on est majoritaire. Mais là, il semble que ce soit possible. C'est pas gagné. Je suis pas en train de te dire que les démocrates vont récupérer les 2 chambres, mais il y a un mois, je t'aurais dit non. Les démocrates vont gagner la Chambre des représentants, pas le Sénat. Et là, ça devient intéressant. On peut en jaser comme une possibilité. Et encore là, il y a des républicains qui se dissocient. Mais cette fois-ci, au Sénat, c'est remarquable, les républicains qui osent parler contre Donald Trump, c'est ceux qui se sont fait tasser. C'est ceux qui ne reviendront pas. Donc, pour Donald Trump, c'est complexe parce que ces sénateurs-là peuvent lui nuire encore jusqu'à l'élection, jusqu'à temps que les nouveaux sénateurs entrent en scène. Donc, ça explique l'espèce de confusion, de débat, parce qu'on en parle moins dans l'actualité à cause de l'Iran, mais il y a beaucoup de dossiers qui stagnent actuellement à la Chambre et au Sénat, puis une partie de la résistance ou de la stagnation, ça vient de républicains qui ont décidé de retourner la monnaie de sa pièce au président Trump, qui s'est ligué ou qui a ligué les républicains contre eux dans certaines primaires. Mais donc, pour faire court, retenons que normalement, si la tendance se maintient, disait Bernard de Rome, donc, normalement, la Chambre serait démocrate et on ne peut plus exclure que les démocrates gagnent le Sénat. Ça ferait donc un président Trump qui ne peut plus se représenter, à qui il ne resterait que 2 ans de mandat, ce qu'on appelle un « lame duck », c'est dans le jargon, là, un canard boiteux, c'est un président qu'on éloigne tranquillement parce qu'on n'aura plus besoin de lui, il compte moins dans le jeu politique, mais on aurait donc un « lame duck » confronté à 2 chambres démocrates. Donc, il reste le président. Il y a certains pouvoirs qui reviennent au président qu'il va toujours pouvoir utiliser. Mais pour ces projets de loi, bonne chance. Parce que pour un projet de loi, il faut le président, mais il faut les 2 chambres aussi.
Est-ce que ça ferait en sorte que la fin de mandat de Donald Trump, ces 2 dernières années, serait plus douce?
Est-ce que tu peux associer doux à Donald Trump, si je te pose la question comme ça?
Dans le sens de, exemple, pour ce qui est d'agir à l'extérieur du pays, il serait peut-être un peu plus calme, il tenterait de négocier des accords avec les différentes chambres pour faire passer ces choses, ou encore, ce serait complètement la guerre, puis ça se ramasserait en cours. Ce serait quoi, selon toi?
Si j'avais à placer un vieux 2, là, ceux en papier qui valent plus cher...
Ouais, j'aime ça, moi, ça.
Si j'avais à parier un vieux 2, j'ai jamais vu Donald Trump, et je le suivais déjà comme homme d'affaires ou comme personnalité médiatique, je n'ai jamais vu Donald Trump baisser les bras et abandonner, dire qu'il avait tort ou reconnaître que l'adversaire a quelque chose de bon entre les mains. Si j'avais, tu me dis, on fait notre pari là, je ne m'attends pas à ce que Donald Trump se calme. Il y a des présidents qui ont fait ce que tu as mentionné. Moi, je me souviens que Bill Clinton avait étonné plein de gens parce qu'on se disait, il est confronté aux républicains, qu'est-ce qu'il va faire? Et Clinton a commencé à présenter des projets de loi qui étaient littéralement la continuité de ce que les républicains proposaient. Et là, les républicains se sont trouvés devant le dilemme. Est-ce qu'on dit non à quelque chose qu'on a proposé ou on s'entend avec Clinton? Je résume simplement, mais Clinton est parvenu à s'en sortir. Barack Obama a confronté à la même situation, avait dit, écoutez, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais j'ai un crayon dans une main, j'ai mon téléphone dans l'autre. Je peux toujours bouger. Appelez-moi, puis je peux signer une loi. Mais il y avait une forme d'ouverture ou une forme de dialogue. Écoute, j'espère me tromper pour les Américains, parce que quand ça bloque complètement aux États-Unis, nous, on peut commenter ça comme un jeu politique, mais il y a des gens sur le terrain qui vivent avec l'absence de décision ou avec la paralysie. J'espère qu'il va se mettre à négocier un peu plus avec les démocrates. Mais je ne m'y attends pas. C'est pas ce que je prévois.
Est-ce que du côté républicain, la stratégie, ce serait... Bon, je sais que Donald Trump ne voudrait pas se retirer. Là, c'est tout à fait normal, connaissant l'individu. Mais est-ce que Marco Rubio pourrait prendre plus de place? Est-ce que J.D. Vance pourrait prendre plus de place pendant ces 2 ans-là pour préparer la suite?
Ça va être intéressant, ça aussi, parce que Donald Trump, c'est un peu le coq. Hein? C'est lui qui domine, puis il veut pas qu'on lui fasse de l'ombre. Et encore là, il a joué, je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, mais il s'amusait même dans des rencontres partisanes à faire des paris. Vous aimez plus qui, vous? Vous aimez Marco ou vous aimez JD? Hein? Il tente de mousser un contre l'autre et ça semble l'amuser. Donc, il joue ce qu'on appelle en anglais le kingmaker, le faiseur de roi. Les deux, en tout cas, se préparent activement pour la succession. C'est très, très, très clair. Ils ont posé un certain nombre de gestes sans se confronter, sans se lancer des défis, quand on regarde ce qu'ils veulent accaparer comme attention, quel dossier ils veulent obtenir, à qui on confie telle représentation et telle autre. Les deux hommes sont sur les rangs pour la succession de Donald Trump. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à, même poliment, avec des gants blancs, à tasser Donald Trump? Parce qu'il faut se rappeler, le Trumpisme ou les MAGA sans Donald Trump, est-ce que ça tient? Et autant Rubio que J.D. Vance savent qu'ils ont besoin des partisans de Trump. La base loyale, le fidèle, le noyau dur, c'est Trump qui a la main mise dessus. Est-ce que la base de Trump accepterait qu'on trahisse Trump ou qu'on le tasse pour imposer un des deux autres ou qu'un des deux autres s'impose? Les Républicains vont devoir vivre, bien sûr, avec le fait de ne jamais avoir dit non à Donald Trump. Donc, ça va les suivre jusque-là. Puis ça va être un beau sujet après les élections de mi-mandat. Moi, j'ai déjà hâte de voir comment vont, quand je dis hâte, c'est pas la joie et le bonheur, j'ai déjà hâte de voir comment vont se dérouler les élections de mi-mandat. Parce qu'avant même de penser à la succession ou à la majorité des démocrates, ça va se passer comment au mois de novembre quand les gens vont se déplacer pour aller voter, quand on va divulguer les résultats et qu'on va déjà commencer à crier qu'il y a eu fraude. Parce que ça fait plusieurs fois déjà que Donald Trump et même le département de la justice disent « Regardez, les démocrates trichent. Ils viendraient de le faire en Californie puis pour la mairie de Los Angeles. On n'a aucune preuve de ça. Moi, j'ai rien vu nulle part. C'est, je fais ça de mes journées, commenter l'actualité puis nourrir les dossiers. J'en ai pas vu de magouille et de fraude, mais déjà, on crie à la fraude. Puis l'élection a lieu juste au mois de novembre.
Ah, il y aura bien des histoires qui sortiront d'ici ce temps-là. On a le plaisir de passer la soirée en compagnie de Luc Laliberté. C'est un prof, c'est un spécialiste de la politique américaine. Une fois de temps en temps, j'ai la chance de l'avoir dans Marceau le soir, mais si vous voulez suivre ses podcasts, c'est La Liberté en clair. Donc, Luc Laliberté en clair, vous allez être capable d'avoir accès à ses podcasts sans aucun problème. On fait une courte pause et on revient.
Marceau le soir. Avant même le podcast, il y avait Marceau le soir. Du lundi au jeudi, 18h, Marceau parle avec du monde. Du monde quand même assez intéressant.
Oui, oui, bien sûr.
Des politiciens, des acteurs de l'actualité, des experts, des avocats, des musiciens, des professionnels. Et même des inconnus qui ont quelque chose à dire. Mais avant tout, des humains, des émotions, des histoires. Marceau le soir, à Boulevard.
Ce segment d'émission présenté par Lévis Subaru qui est maintenant situé au 5085 rue Christophe-Colomb à Lévis. Lévis Subaru, c'est la place pour votre nouvelle voiture.
Aubaine, des produits de qualité à prix de liquidation. Des nouveautés chaque semaine. Québec, Saint-Georges, Lévis et chapeaubaine.com. Chapeaubaine, des marchands de bonheur.
Depuis le temps que vous y pensez, ce mois-ci, c'est le temps de passer à l'électrique avec Kia Lévis. Le moment est parfait pour se procurer le Kia Niro EV Win. Écoutez bien, en incluant le rabais Fidélité, la remise gouvernementale et le rabais Kia jusqu'à 3 000 $, le Niro EV vous est offert en location pour 48 mois à partir de seulement $87,99 par semaine. Et fini l'essence, passez à en faire l'essai. Kia Lévis. Sur approbation du crédit, 16 000 km par année.
Pour Martin, tout a commencé il y a 20 ans chez le dentiste.
Attends, Martin Rivard?
Exact. Il a pris un magazine dans la salle d'attente, il est tombé sur 1-800-GOT-JUNK, puis le jour même, il a appelé.
OK.
Et peu après, il a implanté la franchise à Québec. Et 20 ans plus tard, plus que jamais, Martin aide les gens à faire de la place pour de nouveaux départs.
Ici Martin Rivard, fier franchisé à 1-800-GOT-JUNK à Québec. Depuis 20 ans, on vous débarrasse de tous vos objets encombrants et on crée de l'espace pour les possibilités.
Composez 1-800-GOT-JUNK ou visitez le 1-800-GOT-JUNK.com.
Atelier de mécanique Boisvert recrute des machinistes et des soudeurs.
Salaire jusqu'à 40 $ de l'heure avec RVER, possibilité d'overtime. Notre équipe vous attend chez Atelier de mécanique Boisvert. Vous êtes machiniste ou soudeur?
Postulez dès maintenant au alex@mecboisvert.com.
Tous les vendredis jusqu'au mois de juillet, profitez de la promotion plein gaz au Grand Royal Wallinac. Cumulez vos points aux machines à sous et courez la chance de gagner jusqu'à 200 $ en carte d'essence prépayée. De plus, vos points sont doublés de 8h à midi. Le Grand Royal Wallinac, à 15 minutes de Trois-Rivières.
Vous rêvez d'un VUS qui allie performance, confort et raffinement? Découvrez le tout nouveau Lexus NX 350 Premium 2026 chez Boulevard Lexus. Profitez d'une location 24 mois à seulement 1,9% à partir de $678 par mois avec acompte. Avec son design distinctif, sa conduite agréable et ses technologies de pointe, le NX est prêt à vous accompagner partout. Passez chez Boulevard Lexus dès aujourd'hui et choisissez le vôtre avant que les unités disponibles ne trouvent preneur. Boulevard Lexus, l'expérience du luxe vous attend.
Pourquoi la fête nationale du Québec est importante? Parce que c'est la nôtre.
Une fête qui nous rassemble et qui nous ressemble. C'est le moment où on se retrouve pour célébrer, chanter nos chansons, même ceux qui connaissent pas les paroles. D'ailleurs, ça, cette année, peut-être juste apprendre les paroles, ça pourrait être bien. Je m'appelle Pierre-Luc Funk et je suis le porte-parole de la Fête nationale 2026. Le 23 juin sur les plaines d'Abraham et les 23 et 24 juin partout dans la capitale nationale, on va fêter ça en grand. Rendez-vous sur québec.ca/fête-nationale. Merci à notre partenaire Hydro-Québec. Un message du gouvernement du Québec.
Votre pelouse mérite son moment de gloire cet été. Avec Winman Entretien de pelouse, les nouveaux clients profitent de 50 % de rabais sur le premier service de leur programme.
Résultat, un gazon d'un vert éclatant et plus dense.
Cet été, offrez-vous la pelouse que vous méritez.
Tu penses t'acheter une voiture prochainement? T'en veux pas une neuve, mais une comme neuve? Pour une voiture, c'est Charlesbourg Toyota. Va voir nos comme neuves au comme-neuve.com.
Amis enseignants, n'attendez pas la dernière cloche pour renouveler votre forfait cellulaire. Chez Horizon Mobile, détaillant TELUS, nous avons des rabais corporatifs pour les profs. En juin, procurez-vous le Samsung Galaxy S26 et profitez de 15 % de rabais sur les accessoires exclusivement dans vos succursales Horizon Mobile.
Pièces d'auto économique, c'est 5 centres de distribution, 8 magasins, un site transactionnel et plus de 200 employés à votre service. En juin, profitez de nos différentes promos sur les freins, les amortisseurs, les produits d'esthétique. Ouvert le samedi au 1240 Charest-Ouest, pièceséconomique.com.
Vieux frigo, congélo, climatiseur, ils ont l'air inoffensifs. Pourtant, leurs gaz peuvent être nocifs s'ils sont mal recyclés. Pardon. Certains gaz sont plus dommageables que d'autres. Go Recycle, recycle vos vieux appareils réfrigérants.
C'est le moment idéal pour réaliser votre rêve chez Desjardins Volkswagen. Profitez des taux de location les plus bas de l'année sur les Golf GTI, Golf R et Jetta GLI, en plus d'un financement à partir de 0 % et d'une réduction de taux pour les clients Volkswagen. DesjardinsVolkswagen.ca.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien... Vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
C'est toujours un plaisir d'avoir Luc Laliberté en podcast si vous voulez le suivre sur les réseaux sociaux, si vous voulez avoir accès à ses podcasts, c'est un prof d'histoire, c'est un spécialiste de l'actualité, de la politique américaine. C'est La Liberté en clair, donc Luc Laliberté en clair sur les réseaux sociaux, vous allez avoir accès à ses podcasts qui sont toujours franchement intéressants. Il y avait un gros show la semaine passée en face de la Maison-Blanche, c'était le UFC. On nous disait que c'était en l'honneur du 250e des États-Unis, puis finalement, ben, on s'est rendu compte que c'était pour Donald Trump et sa fête. Il fêtait ses 80 ans. Il y avait aussi l'annonce là, de la fameuse entente avec l'Iran qui a été annoncée à sa fête aussi. Ça a été une belle journée pour Donald Trump. Ils l'ont échappé belle de ce que j'ai vu. Là. C'est dans un article de Radio-Canada de ce matin. On dit qu'il y a une menace potentielle qui a été déjouée lors du gala du UFC à la Maison-Blanche. Des individus auraient voulu utiliser des drones chargés d'explosifs pour frapper des bâtiments près de l'événement. Et il y a une deuxième vague de drones qui était supposément prévue pour prendre d'assaut la grille de la Maison-Blanche. Et là, on dit que le Secret Service a réussi à contrer la menace. Quelle histoire quand même! Hein? Ça ferait quoi? 3 ou 4 fois qu'on s'attaque à Donald Trump là, pendant ce mandat-ci?
Ce serait documenté la 4e fois, je pense. Et ça nous rappelle aussi que ce n'est pas arrivé que sous l'administration Trump. C'est quand on est à Washington, Trump ou pas, on est dans un des centres de décision de la planète les plus importants. Symboliquement, c'est une cible qui est très forte. Et là, en plus, ça aurait été pour le 80e anniversaire du président pendant un match donc de combat du UFC. Donc, malheureusement, c'est le genre de défi auquel sont confrontés tous ceux qui assurent la sécurité de la Maison-Blanche, de Washington, ouais, du président. Ouais. Et on ne peut que se réjouir qu'il soit parvenu à déjouer cette attaque-là. Ouais. Mais il est toujours en tête que Donald Trump ou pas, rappelle-toi, quelqu'un était entré à la Maison-Blanche sous Obama et était monté au deuxième étage dans ce qu'on appelle la résidence. La famille était absente, mais il y a quand même quelqu'un qui a réussi à déjouer les mesures de sécurité pour entrer là.
Ouais.
Donc, c'est constant comme menace, puis on se doit d'avoir les budgets et le personnel nécessaire pour contrer ça.
J'ai dit vendredi, excuse-moi, il y a un caillou qui a passé, ça arrive des fois là, à cette heure-là. C'est dimanche que c'est arrivé cette menace potentielle qui a été contrée. Puis, t'sais, je me souviens encore du moment où Donald Trump était candidat pour devenir président des États-Unis, puis il avait tout touché à l'oreille. T'sais. Ça, c'est-tu quelque chose qui l'a aidé, ça, cette tentative d'assassinat sur lui, où, après s'être fait toucher à l'oreille, bon, tout le monde a eu peur, bien entendu, mais lui était excité comme il n'avait jamais été excité de sa vie, le poing dans les airs. C'était incroyable comme moment, là.
Je pense sincèrement que ça a contribué, d'abord pour des partisans de Donald Trump, qui le considèrent littéralement comme l'élu. Ça devenait très clair qu'il avait été protégé, puis c'est un peu ce que Donald Trump a récupéré en entrevue ensuite. Mais comment résister au choc de l'image quand tu as un président, le sang sur l'oreille, qui brandit le poing alors qu'il est accompagné par les agents du Secret Service? Est-ce que quelqu'un peut être insensible à ça? Moi, je pense que ça ne peut être, au plan politique, dans le spin, dans la couverture, qu'un plus pour le président. On semble avoir mis de côté des choses comme ben, « il est tellement polarisant que ça risque de provoquer ça ». C'est moins ce narratif-là qui l'a emporté, parce que Donald Trump, dans sa façon de s'exprimer, parle souvent à sa base et réserve des commentaires disgracieux pour ceux qui ne l'appuient pas. Donc, ça divise. Mais là, vraiment, c'était flagrant. Le narratif Donald Trump, parfois, sème la division. Il a laissé le pas complètement à, un, dans certains cas, c'est l'élu. Puis dans d'autres, regardez la violence qui se déchaîne contre quelqu'un qui a été ou qui se présente comme une victime. Et pour tous ceux qui disaient que Donald Trump était âgé, puis on comparait l'âge de Biden à l'âge de Trump, ben là, on disait qu'il est pratiquement invincible, Trump. Il vient de résister à ça. Puis regardez, il n'est pas couché en dessous de la table. Il est debout, il défie avec le poing en l'air. L'image était particulièrement forte.
Ah, écoute, on a tous regardé ces images-là en se disant, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Quelle attitude particulière? Là, lever le poing et être content de s'être fait tirer dessus. Je suis peut-être moins fait fort que Donald Trump. Là. Moi, j'aurais eu la tête baissée puis je serais rentré dans limousine assez vite, je peux te le dire. Je pense que je manque de courage.
Est-ce qu'on a le temps pour une anecdote, Yannick?
Ben oui, vas-y, on a une minute, tiens.
Quand je te parlais de Theodore Roosevelt tout à l'heure, j'ai échappé le nom dans la conversation. Theodore Roosevelt, alors qu'il était, ça m'a rappelé Trump, alors qu'il était candidat à la présidence, lui aussi, se présente sur l'estrade, il est en train de faire un discours et il y a quelqu'un qui le tire pratiquement à bout portant. Et le président est atteint d'une balle qui a ricoché sur son étui de lunettes, mais qui a quand même perforé qui lui est quand même entré dans le corps. Et le réflexe de Roosevelt, ça n'a pas été « je m'en vais, sortez-moi d'ici », il a porté la main à sa bouche et il a dit « si j'ai pas de sang, ça veut dire que le poumon n'est pas atteint, je peux continuer ». Et il a continué son discours pendant au moins une heure en rappelant aux gens « je viens de me faire tirer, mais vous voyez qu'on ne m'aurait pas ». Et le surnom qu'on lui donnait à l'époque, c'était le « bull moose », le bock ou le mâle chez l'orignal. Et il avait dit « c'est comme ça que ça se comporte un bull moose ». Et il parle aux gens alors qu'il est atteint d'une balle. Donc, c'était spectaculaire, mais c'est ça qui m'est venu en tête quand Donald Trump a été touché à l'oreille dans l'incident dont on vient de parler.
Ces gens-là sont bâtis différemment. Luc La Liberté, on fait quoi pour te retrouver sur les internets pour avoir accès à tes podcasts?
La Liberté en clair, c'est sur Facebook essentiellement, mais relayé aussi sur Instagram, sur Blue Sky, sur X, sur en fait la plupart des plateformes. Mais c'est le matin vers 7h30, 8h moins quart, chaque matin, sauf le samedi. Donc, c'est déposé sur Facebook. La Liberté en clair.
C'est toujours un plaisir. Je te souhaite de passer une belle fin de soirée, puis merci d'avoir été là.
Encore un grand merci, Yannick. Toujours un plaisir, sincère.
Même chose pour vous, les auditeurs. On se reparle demain à la même heure. Salut tout le monde. Bonne soirée.
Marceau, le soir.
Ce segment d'émission présenté par Lévis Subaru, qui est maintenant situé au 5085 rue Christophe-Colomb à Lévis. Lévis Subaru, c'est la place pour votre nouvelle voiture.
Ce soir, les Capitals sont en action au Stade Canac. Du baseball spectaculaire, une foule en feu et une ambiance incomparable. Billets au capitaldequebec.com.
Pour Martin, tout a commencé il y a 20 ans chez le dentiste.
Attends, Martin Rivard?
Exact. Il a pris un magazine dans la salle d'attente, il est tombé sur 1-800-GOT-JUNK, puis le jour même, il a appelé.
OK.
Et peu après, il a implanté la franchise à Québec. Et 20 ans plus tard, plus que jamais, Martin aide les gens à faire de la place pour de nouveaux départs.
Ici Martin Rivard, fier franchisé à 1-800-GOT-JUNK à Québec. Depuis 20 ans, on vous débarrasse de tous vos objets encombrants et on crée de l'espace pour les possibilités.
Composez 1-800-GOT-JUNK ou visitez le 1-800-GOT-JUNK.com.
Ici Pierre-Luc Funk et je suis fier de vous présenter le grand spectacle de la fête nationale dans la capitale. En direct des Plaines d'Abraham, en compagnie de Lou-Adriane Cassidy, Claude Dubois, Sarah May, Gab Bouchard, Marie-Pierre Arthur, À la claire ensemble, Mélissa Bédard, Joseph Saranès, Marie-Denise Pelletier, Mia Tiner, Daniel Boucher et Marie May. Soyez des nôtres pour le grand spectacle de la fête nationale dans la capitale, le mardi 23 juin, 21h30, exclusivement à Télé-Québec.
Salut, c'est Pierre. Dans ton auto, tu te fais dépasser par des scooters, par des vélos, des tracteurs à gazon, un traîneau à chien. Ben, c'est le temps de changer.
Ce mois-ci, chez Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, changez pour le Kicks. En location sur 60 mois pour l'équivalent de 88 $ par semaine et 0 $ d'acompte. Mettez du Kicks dans votre été avec